vue d'ensemble de l'actualité.
My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation.
Trêve PM.
Mettre de côté la politique, se regrouper. Une nation qui affronte cet hiver sombre, qui affronte cette pandémie, qui est dans son moment le plus dur, le plus meurtrier, a dit Joe Biden. Là, on va aller rejoindre le docteur Julien Cavanagh. Il est neurologue au General Hospital Harvard Medical School à Boston. Bonjour, docteur Cavanagh.
Bonjour.
Avant que vous nous disiez les espoirs que suscite le plan Biden, là, donc qui va être déposé un peu plus tard aujourd'hui, là, la stratégie pour lutter contre la COVID, faisons un petit peu le portrait de ce qui se passe aux États-Unis présentement, Dr Cavanagh. Faites-nous le portrait de ce que vous observez, de ce que vous vivez.
C'est une situation de catastrophe sanitaire qui est due à une perte de contrôle totale de la pandémie. Ça veut dire que c'est une transmission communautaire. Les gens attrapent le virus dans leur vie quotidienne. Au-delà de ce qu'on appelait les clusters ou les foyers d'éclosion, le virus devient endémique. Et c'est pour ça qu'on a entre 200 et 250 000 nouveaux cas par jour et maintenant un nombre de morts absolument colossal, puisque on a passé les 400 000 morts depuis le début de la pandémie. Il faut bien voir que les premiers 100 000 morts, ça a pris 4 mois. Pour passer de 300 à 400, on a mis 4 semaines. Donc c'est une situation désastreuse dont hérite le président Biden. Et donc ça va être très, très difficile, dans les semaines et les mois qui viennent.
Vous avez dit les premiers 100 morts, 4 mois, et pour passer de 300 à 400 000 morts, 4 semaines, c'est bien ça?
Mm-hmm. C'est ça.
Wow! Fait que là, on s'entend, là, comment dire, le virus galope là et tue là, mais tue beaucoup là. On est vraiment. Alors comment vous le vivez vous, docteur Cavanagh? Est-ce qu'il y a des codes d'hôpitaux par exemple qui ont débordé, qui ne pouvaient plus prendre, qui ont dû même faire du triage, décider qui on soigne, qui on ne soigne plus?
Absolument. Il y a encore des disparités régionales. Il y a certains systèmes hospitaliers qui tiennent le choc, mais au prix de déprogrammer des interventions et des soins qui n'ont pas à voir avec la COVID. Il y a des hôpitaux qui, malgré ça, sont en débordement total. En Californie, dans la région de Los Angeles en particulier, la situation est dramatique. Il faut bien comprendre que si un patient fait un arrêt cardiaque à domicile sur la voie publique aujourd'hui à Los Angeles, Si les ambulanciers ne réussissent pas à obtenir un retour du rythme cardiaque sur le terrain, ils n'ont plus le droit d'amener cette personne à l'hôpital. Donc ce sont des gens qui n'ont plus leur chance d'avoir leur passage aux urgences et leurs soins sur place. Et puis tout prend trop de temps puisque les infirmiers, les médecins sont débordés et c'est particulièrement tragique parce que, vous savez, ce sont des patients qui nécessitent une attention de tous les instants, peuvent se dégrader très rapidement. Et donc, s'il n'y a pas le personnel pour les surveiller et faire souvent des mesures assez simples pour sauver leur vie, eh bien, il y a une perte de chance tout à fait significative. Donc, ça explique aussi le fait que, quand le système est saturé, des gens qui, normalement, auraient dû s'en sortir et guérir de la COVID se trouvent à en mourir.
Là, je vais demander à mon collègue Luc Lavoie de se joindre à la discussion. Luc, bonjour.
Oui, bonjour.
Vas-y avec ta question, s'il te plaît.
Mais dites-moi, docteur, est-ce que la situation étant totalement hors contrôle quant à la pandémie, est-ce que c'est possible de reprendre le contrôle ou alors n'y a-t-il que le vaccin comme solution?
Non, il faut qu'il y ait la volonté politique au niveau fédéral de reprendre le contrôle. On peut pas baisser les bras et dire « Ah bon, bah tant pis, entre la transmission communautaire et le vaccin, on va arriver à une situation d'immunité collective et puis ça va s'arrêter tout seul. » C'était ce que Donald Trump comptait faire. Hein, je laisse le virus se propager et puis il y aura le vaccin et puis bonhomme à l'an, on arrivera à une immunité collective. On voit bien que ça ça marche pas comme stratégie, puisque maintenant on a des nouveaux mutants. Et il faut absolument reprendre le contrôle de cette épidémie maintenant pour ne pas arriver à une situation où on a tellement de transmissions qu'il y a, in fine, des mutants résistants aux anticorps qui sont générés par la vaccination, qui résistent. Hein. Donc il faudrait pas qu'on se retrouve avec un mutant qui résiste à la vaccination, pour simplifier.
Mais je reformule ma question. Est-ce qu'il y a des mesures présentement, à part le port du masque dans les édifices fédéraux qui a déjà été annoncé par le président Biden? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour dire « on essaie de reprendre le contrôle » ?
Alors, déjà, il faut qu'il y ait une stratégie nationale avec un appel à l'Union nationale dans les mesures de santé publique. Donc, il va devoir convaincre les 50 gouverneurs de se mettre à l'unisson pour le port du masque et sans doute avec de la simulation économique en récompense, si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Restaurer la confiance dans les mesures de santé publique, les mesures scientifiques. Deuxièmement, il faut tester davantage. Il faut qu'on arrive à un moment où les Américains ont facilement accès aux tests pour comprendre où se situe la pandémie et la cibler là où elle est le pire. Et puis, il faut aider les soignants à prendre en charge les malades pour qu'on se retrouve plus dans des situations où on manque de matériel médical.
Vous en avez manqué beaucoup? Vous en avez manqué beaucoup?
Alors, plus maintenant ici, dans l'hôpital où je travaille, mais on est encore en situation de réutiliser du matériel jetable, notamment les masques N95, qui sont les masques les plus protecteurs. Et ce que j'entends dans plusieurs systèmes hospitaliers, c'est que les réserves commencent à diminuer et qu'on risque de se retrouver à nouveau, comme en mars-avril 2020, avec manque de matériel. Donc ça, on peut pas tolérer que les soignants se retrouvent de nouveau exposés parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire. Et ça, l'administration fédérale a les moyens d'orienter la production industrielle américaine pour produire le matériel dont on a besoin. D'ailleurs, ces outils législatifs fédéraux, le président va sûrement les utiliser aussi pour développer son plan vaccinal.
Jusqu'à quel point, Dr Cavanaugh, les partisans de Trump résistent-ils aux mesures de confinement ou aux mesures de protection, là? Parce que c'est ça qu'on sent, nous, d'ici. Vous parlez qu'il va falloir un mouvement d'unité, il va falloir que tous les gouverneurs, démocrates et républicains, se mettent ensemble. Mais l'Amérique est tellement divisée, je me demande jusqu'à quel point les partisans de Trump ne vont pas résister activement à la stratégie de Biden, et ils sont quand même très nombreux. Et s'ils résistent, on s'entend que ça devient difficile d'avoir une stratégie efficace, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez des poches un peu partout sur le territoire américain de gens qui ne portent pas le masque et qui ne croient pas au virus.
C'est évident qu'il y a toute une frange de la population qui est branché à jet continu sur les théories du complot, etc., et qui ne se joindront pas à cet effort d'unité nationale. Donc il faut être réaliste sur le fait que c'est pas 100% de la population américaine, malheureusement, qui va se joindre à l'effort. Mais il y a toute une catégorie de la population qui est un peu entre deux et qu'on a sans doute la possibilité de convaincre, qui hésite, qui ne comprend pas, qui finalement louvoie entre différentes approches. Donc si tout le monde s'y met, on a la possibilité de gagner cette bataille, ou en tout cas de gagner du terrain. Quoi qu'il en soit, le président a le devoir, il a la mission d'essayer autant que faire se peut. Chaque fois qu'on a convaincu quelqu'un de porter un masque et de se faire vacciner, c'est déjà une petite victoire. Personne après personne, tout compte.
Luc, vas-y donc avec ta dernière.
Ben, au point où on en est, est-ce qu'on peut modifier la façon de vendre ça aux gens? Il y a eu tellement de conneries qui se sont passées depuis le début de la pandémie aux États-Unis. Y a-t-il une façon différente de dire aux gens, bon, ben, fini les conneries et puis on bouge?
Je crois pas que la façon de procéder de Joe Biden soit autoritaire. C'est quelqu'un qui est dans la conviction et qui a tout au long de sa carrière été un peu travailler les gens au corps avec son verbe, avec sa capacité de conviction. et qui a toujours essayé de trouver des compromis en essayant de faire appel à ce qu'il y avait de meilleur chez chacun. Donc je pense que c'est comme ça qu'il va s'y prendre par la conviction et la démonstration scientifique de ce qui marche et de ce qui marche pas. Il y a aussi une forme de modestie et d'humilité. La confrontation frontale, ça marche souvent pas très bien.
En tout cas, on vous souhaite la meilleure des chances, Julien Cavanagh, même si on comprend bien que c'est d'abord une question de volonté. La chance, c'est en surplus, c'est en prime, mais là, ça prend une immense volonté politique puis une immense volonté populaire aussi pour essayer de freiner la courbe et de baisser le nombre de cas progressivement. On va suivre ça depuis chez nous et bonne chance, vraiment, Dr. Julien Cavanagh. Donc, je rappelle que vous êtes neurologue au General Hospital du Harvard Medical School à Boston. Lâchez pas.
Merci beaucoup, docteur.
Merci de votre invitation. Bon après-midi.
Au revoir. On s'en va à la pause au retour. Alors, Luc, on se reparle un petit peu plus tard. On s'en va à la pause pour faire un petit suivi au retour sur l'histoire de Vincent Larouche. Vous savez, là, cette entreprise qui a été bannie des contrats de Montréal parce qu'elle a déversé des boues contaminées sur des terres agricoles. Cette même compagnie vient d'obtenir un contrat pour les trains de banlieue, EXO, donc. Et puis là, on comprend pas trop pourquoi. Et hier, on avait une discussion, Vincent Larouche et moi, puis on se disait, ben là, il faudrait que la ministre Sonia Lebel vienne nous expliquer. Ben, elle va être dans l'émission tout de suite après la pause.